Bonsoir. Les évêques du Maniema Nord et Sud Kivu dénoncent le silence des autorités de la RDC et de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Ces prélats catholiques ont exprimé leur indignation dans une déclaration rendue publique le week-end dernier au terme de leur conclave d'une semaine à Butembo. Dans leur déclaration, ces évêques qualifient les massacres de Beni de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Quelle lecture faire de la déclaration des évêques? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 27 mai 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Abbé Jean-Marie Vianney Kitumaini, secrétaire provincial de la conférence épiscopale de Bukavu. Abbé Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir, les auditeurs et auditrices.
Merci, vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Douglas Tizabio depuis le Nord Kivu, dit ceci. Ces prélats n'ont pas tort de s'alarmer car le silence des autorités gouvernementales et de la communauté internationale passe pour un aveu de complicité, à mon avis. Jean Basilere, cette déclaration des évêques est salutaire car la tendresse par laquelle le gouvernement traite la question sécuritaire justifie son niveau de complicité. Cependant, je me demande quelles mesures efficaces ces évêques ont-ils proposées pour mettre fin à ce fléau. Merci de nous souvenir partenaire RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au terme de leur conclave d'une semaine tenue le week-end dernier à Butembo, Nord Kivu, les évêques catholiques du Maniema Nord et Sud Kivu ont dénoncé le silence des autorités de la RDC et de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité dans le territoire de Beni, à plus de 350 km au nord de Goma. Ils ont également dénoncé ce qu'ils qualifient de l'affairisme des autorités politiques et militaires et regrettent que la sécurité, la paix et l'intégrité territoriale ne soient pas inscrites parmi les priorités. Les détails avec vous, Denise Lukesso.
Outre la situation socio-pastorale, les prélats catholiques ont aussi tablé sur la sécurité en se focalisant sur les massacres des civils à Béniville et territoire. Ils expriment leur indignation par rapport au silence des autorités et de la communauté internationale face à ce qu'ils qualifient de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les évêques du Kivu, qui dénoncent l'affairisme politico-militaire, regrettent par ailleurs que la sécurité, la paix et l'intégrité du territoire congolais ne semblent pas être prioritaires dans la stratégie des autorités habilitées. Le chef de l'État doit assumer ses responsabilités en cette période électorale, recommande-t-il, et à la MONUSCO d'améliorer les rendements de sa mission de stabilisation et de protection des civils. D'autres recommandations en rapport avec la situation ont été formulées à l'endroit des différentes autorités du pays, aux députés ainsi qu'à la communauté internationale par les évêques des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Merci Denise Lukesso. Abbé Jean-Marie Vianney Kitumaini, je rappelle que vous êtes secrétaire provincial de la conférence épiscopale de Bukavu. Dans votre déclaration, vous dénoncez dans la déclaration des évêques du Maniema, du Nord et Sud Kivu, les évêques dénoncent le silence des autorités de la RDC, de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité dans le territoire de Beni. Pourquoi vous parler de silence alors qu'on sait qu'il y a des autorités politiques congolaises qui se sont rendues à Beni justement pour essayer de trouver une solution face à cette situation d'insécurité?
Oui, je crois que j'aimerais d'abord placer l'intervention et le message des évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu dans le cadre même de leur mission pastorale. Une mission pastorale où les évêques n'ont pas seulement tablé sur des questions d'ordre structurel, mais aussi ils ont tablé sur des situations claires qu'ils ont eu le temps d'écouter, parce que c'est déjà la descente de l'avion à Butembo le 16 mai dernier que les jeunes ont exprimé leur désarroi face à la situation qui s'est vue dans les territoires de Beni et dans le Nord Kivu. Ils ont passé en revue toutes ces situations. Ils ont eu à écouter, ils ont eu à entendre. Et c'est par là qu'ils commencent leurs lettres. Lorsqu'ils parlent des faits et des réalités, ils ne pouvaient pas se taire sans pour autant pouvoir se rendre complice d'une situation qui est claire, qu'il faut dénoncer, parce que les évêques n'attaquent personne, les évêques attaquent le mal et appellent à la conscience de chacun qui serait impliqué dans le mal qui se fait là, parce que les tueries et autres massacres, c'est un mal qu'il faut absolument, dans le cadre de la mission prophétique, affronter. Et c'est, il me semble-t-il, là, leur lettre se trouve dans le cadre d'une solution à la question sociale qui se pose concrètement dans ces milieux de Butembo et même aussi dans toute la province ecclésiastique de Bukavu.
Est-ce que ça veut dire que les évêques ont constaté une certaine indifférence face à cette situation de Beni de la part des autorités politiques, des autorités de la RDC, de la communauté internationale?
Ils n'ont pas parlé d'indifférence. Ils ont constaté, ils ont fait l'analyse de la situation et se sont rendus compte que la paix et l'intégrité nationale ne semblaient pas encore être parmi les priorités des autorités publiques qui, dans leur devoir, doivent veiller à ces aspects de la vie nationale des citoyens. Il me semble que c'est là la difficulté qu'ils ont rencontrée. Il fallait qu'on puisse lever déjà les points et donner leur point de vue vis-à-vis de cette situation.
Alors, dans votre message, dans vos déclarations, les évêques se posent cette question. Face à cette insécurité, le gouvernement serait-il incapable, démissionnaire ou complice, incapable peut-être? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Incapables, se sont posé la question, mais c'est parce que tout simplement on assistait à un enlisement récurrent des conflits au niveau des frontières et on se dit, bon, est-ce qu'il serait soutenu par quelqu'un d'autre ou par une force qu'il faut savoir localiser, mais en principe, ils disent peut-être, parce que ils reconnaissent tout de même que le gouvernement a démontré son savoir-faire dans d'autres cas. Il y a plusieurs cas qu'ils ont eu à écouter et il me semble que lorsqu'on est devant un cas comme celui-là, c'était parmi les cas qui devaient attirer l'attention, je pense, de ceux-là qui ont à charge le gouvernement de la cité.
Une autre question que vous vous posez, l'État serait-il démissionnaire et complice? La réponse, c'est possible.
Oui, on dit c'est possible, mais c'est pour quelle raison en fait? C'est là la question importante. Lorsqu'on dit serait-il démissionnaire et complice, on dit mais pour quelle raison il le serait? Parce que en fait, en situation de crise, l'État a les devoirs régaliens de pouvoir assurer la paix, la tranquillité, la sécurité à ses citoyens. Alors les évêques n'ont pas jugé. Ils n'ont jugé personne, ils ont tout simplement posé des questions qui nécessitent des réponses. Et je pense que les acteurs en place ou les auditeurs pourraient nous aider à trouver la réponse dans ces sens-là.
Mais vous-même, vous n'avez pas cherché à trouver des réponses aux questions que vous vous posez?
Les réponses, madame, sont reprises dans la troisième partie de la lettre lorsqu'on parle des exhortations. Parce que on parle toujours des extraits de l'Évangile, de la Bible, là où on demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que l'appel, c'est l'appel à la conversion, l'appel à la prière, l'appel au conseil qu'il faut donner dans les différentes sphères où pourraient se dérouler ces genres de situations. Et je crois que chacun de ceux-là qui devrait faire quelque chose a été plutôt interpellé à son niveau, sollicité son intégration dans la question pour que cette situation finisse.
Merci Abbé Jean-Marie Vianney, on vous garde dans cette émission. Le temps pour moi de donner la parole à André Alain Tondou, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Monsieur Tondou, quelle lecture vous faites de la déclaration des évêques de la conférence ecclésiastique de Bukavu?
Bon, d'abord je voudrais saluer Monsieur Labbé et le professeur Kabamba, ainsi que tous les auditeurs qui vont intervenir et ceux qui nous écoutent. Comme l'a dit Monsieur Labbé, c'est une lettre d'exhortation conforme à leur mission évangélique, pastorale. Je note cependant que les évêques ont parlé de silence et non d'inactivité, ni de complicité, ni d'indifférence. Peut-être que la nature de la lutte à mener contre ces éléments de déstabilisation sont tels qu'il n'est pas de l'intérêt des populations de parler tout le temps, de faire une guerre spectacle. Non, les résultats sont là, on ne fait pas de guerre spectacle, mais les autorités y vont régulièrement.
Mais il n'y a pas de solution après les passages des autorités, on continue à tuer.
Les autorités n'amènent pas de solution, la solution est sur place.
Ils vont faire quoi là-bas, les autorités alors?
Non, ils vont respecter.
Respecter sans apporter des solutions.
Ils vont se rendre compte pour pouvoir étudier après comment réviser la chose. Mais les évêques et beaucoup de gens doivent se rendre compte que dans ce genre de situation, la bonne volonté et la bonne intention ne suffisent pas à faire une bonne chose. Et donc il faut agir, il faut se mouiller. Et j'ai suivi le général, je crois, Jean Cachalé, qui a déploré la complicité dans la population. Parce que techniquement, une guerre comme celle-là ne peut pas prospérer sans qu'il y ait des complicités. Or, les FDLR notamment bénéficient de la complicité de certains membres de la population avec qui ils ont des relations de nature diverse mais intime. Alors, ça complique un peu les choses. Parce que les guerres d'aujourd'hui, ce sont les guerres où il faut tenir compte aussi des droits de l'homme. Il faut tenir compte aussi des crimes de guerre. Et donc, nous évoluons dans un milieu, j'allais dire, presque sur des œufs. Alors, la complicité, il faut dénoncer. Absolument, n'est-ce pas?
Mais les services de renseignement existent, non?
La complicité, il faut dénoncer. Pourquoi? Parce que dans leurs lettres, ils ont évoqué les centres d'entraînement connus, etc., des jeunes qui arrivent. Est-ce que ces jeunes viennent de Kinshasa? Ils ne viennent pas de Kinshasa, ce sont des jeunes du milieu. Donc, la responsabilité des parents, la responsabilité des pasteurs, des encadreurs des âmes, est engagée pour décourager ces jeunes gens, leur donner une autre voie d'espoir. La guerre aveugle, l'atrocité vis-à-vis des siens, n'est pas une solution au problème d'aujourd'hui. Mais que peut faire l'Église aujourd'hui? Il s'agit d'une guerre asymétrique, où les ennemis sont connus, mais sont sans visage, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont dans la population. Alors, l'Église peut au moins, face à cette action d'endoctrinement de nos jeunes par des théories djihadistes, il peut néanmoins entreprendre des actions de réarmement moral par rapport aux valeurs chrétiennes que combattent ces éléments de déstabilisation.
Vous pensez que l'Église ne le fait pas?
Je n'ai pas à penser, je constate. L'action vise à détruire les valeurs morales de la société telles qu'inculquées par l'Église. Est-ce que l'Église a déjà entrepris une campagne de réarmement dans ces camps-là puisque, ou tout au moins, dans les milieux où sont recrutés les jeunes. Sensibiliser les parents par rapport aux valeurs chrétiennes, par rapport, n'est-ce pas, à l'espérance en Dieu, par rapport à la valeur suprême de la vie de l'homme, par rapport à l'abnégation, par rapport au temps difficile que nous pouvons être appelés à vivre. Nous devons tous être des acteurs engagés, car il ne s'agit pas d'un, il s'agit d'un défi.
Et là, vous posez une question, M. Atoum, s'il vous plaît, c'est que par rapport à ce que l'Église fait, et le gouvernement fait quoi?
Non, je réfléchis. L'Église a réfléchi sur ce que dit-elle, le gouvernement ne fait pas. Moi, je réfléchis. Parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique que l'armement ne suffit pas. Ils emploient l'endoctrinement. Eh bien, l'Église a les moyens de faire un réarmement moral à travers des valeurs morales que notre société applique. N'est-ce pas? Nous devons tous être des acteurs engagés, car il ne s'agit pas, il s'agit plutôt d'un défi national pour l'État, mais aussi un défi hautement moral pour nos pasteurs. Comment nos jeunes gens se laissent embobiner aussi facilement par de nouvelles théories exaltant certaines valeurs, on va dire nouvelles. Mais c'est que nos valeurs anciennes, censées être entretenues par nos pasteurs, ne le sont pas. Alors, chacun
si les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail.
Abandonnés à eux-mêmes, donc, par l'Église.
Par le gouvernement
non,
aussi.
Parce que l'encadrement moral, c'est d'abord mais la fonction pastorale à laquelle a fait allusion l'Asbé, c'est quoi? C'est ne pas condamner le gouvernement.
Non,
c'est
mais le gouvernement a la responsabilité de donner du travail à ces jeunes gens.
Non, non, ne confondons pas les choses. La première responsabilité du gouvernement, c'est d'amener la paix et de créer les conditions pour que les gens puissent évoluer.
Est-ce que ces conditions existent pour
bien,
que les gens puissent...
Eh bien, c'est l'effort que fait le gouvernement aujourd'hui. Vous connaissez le prix.
Merci.
Le prix que payent nos militaires sur le front, le prix que payent les militaires de la MONUSCO. Il ne faut pas banaliser.
Vous merci, savez monsieur Atoum, je vous redonne la parole.
Je vous redonne la parole
à l'heure, professeur Bobo Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Comment vous analysez cette déclaration des évêques de la conférence ecclésiastique de Bukavu qui dénonce le silence des autorités de la RDC et de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité à Beni, dans le territoire de Beni, je voulais dire?
Oui, bonsoir et bonsoir à mes débatteurs du soir. Donc il y a même plusieurs choses qu'il faut souligner dans un premier temps cette déclaration. C'est vrai que la situation sécuritaire elle est précaire dans les trois provinces, que ce soit aussi bien au Nord Kivu que Goma, Bukavu, Plaine, La Rosésie, Ouvira et Fizi. Et j'en passe encore. Et donc il est clair que la situation sécuritaire, elle est tout à fait précaire. Et à ces problématiques sécuritaires, ça ajoute aussi les problèmes régionaux qui ont déjà été soulevés à plusieurs reprises. Ce qui est nouveau ici par rapport à la déclaration de l'Église, c'est qu'on ajoute quand même une dimension assez importante où il, de manière claire, sans ambiguïté, la déclaration pointe du doigt la responsabilité quand même de l'État congolais et qui vont quand même assez loin dans leur déclaration où d'une certaine façon mettent en cause l'autorité de l'État dans l'insécurité dans cette partie donc de la RDC. Ça, c'est un élément nouveau quand même que l'on peut souligner dans la déclaration et que cette déclaration, je pense bien qu'elle s'inscrit dans la mission de l'Église puisque nous savons tous que l'Église fait partie de ce qu'on appelle de manière générale et générique la société civile, mais l'avantage de l'Église, c'est que sa voix porte plus haut que celle des autres composantes de la société civile. Et donc, elle est dans son rôle de pouvoir dénoncer les choses qui ne vont pas. Elle est dans son rôle de pouvoir mettre sur la table toute une série d'éléments qui posent problème. Il est aussi un fait que lorsque l'on lit
les recommandations à l'issue de ce de cette lettre, il me semble que l'Église aussi a une part de responsabilité de manière claire à pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir elle-même aussi impulser des actions pour rendre un peu plus prendre ses responsabilités pour occuper l'espace laissé par l'État dans ces espaces et dans ces zones que l'on peut qualifier de non-droit. Il y a plusieurs églises qui ont déjà essayé de faire ce genre d'action, notamment grâce à la théorie de la libération en Amérique latine, où l'Église catholique, de manière claire, a pu constater toute une série de problématiques d'injustice, a mené ce qu'on appelle la théorie de la libération, c'est-à-dire a pu mener des actions de manière claire sur le terrain pour essayer de pallier aussi à la carence de l'État. Et cette théorie de la libération, elle a porté quand même ses fruits pendant quand même les années 70 et les années 80 en Amérique latine. L'Église catholique pourrait aussi faire la même chose, et de mon point de vue, ça serait plus que salvatrice, puisqu'elle pourrait de cette façon-là essayer, dans la mesure du possible, de contrer ce qu'elle-même elle dénonce, c'est-à-dire le radicalisme religieux qui est en train de progresser dans le Nord Kivu, et il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a aussi dans d'autres parties du Kivu où on est en train d'assister à la montée du radicalisme religieux qui est très néfaste, et avec des discours haineux et avec des discours de massacre et des discours de revendication qui n'ont pas lieu d'être dans la province du Kivu.
Alors, professeur Bobkamba, cette lettre des évêques ne peut-elle pas être comptée parmi les actions de l'Église, une façon de sonner, de tirer la sonnette d'alarme face à cette situation de Béni?
Il est tout à fait clair. Oui, c'est on pourra dire, c'est une activité, c'est une action. Oui, c'est une dénonciation claire. Okay, c'est une dénonciation elle le fait souvent. Mais ce que je dis, c'est que ce serait quand même bien par rapport à l'Église qu'elle puisse aller au-delà uniquement de la dénonciation, c'est-à-dire essayer de faire comme l'Église catholique en Amérique latine a fait, c'est-à-dire essayer de manière très claire d'aller non seulement de sortir sortir du champ du discours et d'aller dans le discours, dans le champ de l'action. Dans le champ de l'action,
en faisant quoi, par exemple,
de pouvoir impulser des actions claires. S'il vous plaît.
Quoi, par exemple, impulser des actions
Sans ambiguïté, l'Église catholique ici dénonce le recrutement de manière claire des jeunes dans certains quartiers, et ces quartiers qui sont connus et identifiés, et je ne doute pas un seul instant que l'Église catholique est implantée dans ces zones où on assiste au recrutement et à la montée du radicalisme religieux. Je pense que l'Église catholique est outillée pour pouvoir mener de manière claire sur le terrain pour empêcher justement la montée en puissance de ce radicalisme. C'est aussi dans la mission de l'Église d'être sur le terrain, de pouvoir contribuer et aider à la lutte des valeurs, à la lutte pour les valeurs pour lesquelles nous tous nous croyons, à la lutte pour les valeurs républicaines, à la lutte pour les valeurs, non seulement les valeurs républicaines, mais aussi les valeurs chrétiennes, sont aussi un des fondements de la culture congolaise. Je pense que sur ce terrain-là, l'Église est vraiment un des outils les mieux adaptés pour pouvoir être sur le terrain. D'autant plus qu'elle a elle-même, de manière claire, identifié les lieux, identifié le problème, puisqu'elle parle même des jeunes désœuvrés. Et s'il y a des jeunes désœuvrés qui sont attirés par le discours de radicaux, ben alors que l'Église essaye aussi peut-être de modifier son discours pour que ces jeunes ne se radicalisent pas et que du contraire puissent par contre aller du côté de l'Église où on a un discours qui n'est pas un discours haineux, qui n'est pas un discours de violence.
Merci, professeur Bobo Kiabamba. À monsieur l'abbé Jean-Marie Vianney Kitumaini, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert, on est au sud Kivu. La déclaration des évêques de Maniema, du nord Kivu et du sud Kivu est fondée. Néanmoins, ça ne suffit pas à résoudre efficacement les problèmes de sécurité des Beni. Encore faudrait-il que ces évêques posent de manière concrète au gouvernement des stratégies pouvant permettre à ce dernier d'en finir une fois pour toutes avec une sécurité à Beni. Sinon, leur déclaration risque de demeurer une déclaration stérile, un simple message de bonne intention à l'opinion tant nationale qu'internationale.
Monsieur l'abbé Jean-Marie, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, comment répondez-vous à cet auditeur?
S'il vous plaît.
Comment vous répondez à la préoccupation de cet auditeur qui nous a écrit depuis Bukavu?
Oui, notre auditeur, à qui je remercie, je crois qu'il n'y a pas à considérer la déclaration des évêques comme étant quelque chose de stérile, donc qui ne porterait pas de fruits. Mais je pense que l'instance importante à laquelle on peut attendre des fruits, c'est justement l'instance de la conscience. Et lorsque la conscience est interpellée, l'Église ne court pas derrière la personne, mais elle attend que la personne se convertisse, qu'elle interroge sa propre conscience. Donc, les fruits, même si concrètement vous ne pouvez pas les avoir de sitôt, il me semble que les fruits viennent tout de même après un processus de conscience, parce que l'Église, dans ce sens, évangélise le social, elle imprime dans les cœurs de l'homme la force de l'Évangile, et je pense que c'est la construction d'une cité plus humaine ne peut venir que de l'impression de cet Évangile dans les cœurs de fidèles, des personnes de bonne volonté. Je crois que il faut prendre du temps pour récolter les fruits de cette action.
Vous avez suivi aussi les analyses du professeur Bob Kabamba et de monsieur Atundu. Monsieur Atundu qui pense que l'Église a aussi une part des responsabilités dans cette situation. Et le prof Bob qui propose même que l'Église puisse mener des actions concrètes et ne pas se limiter à juste dénoncer.
Oui, mais je dois dire que en fait l'Église, même lorsque on peut penser qu'il y a une certaine responsabilité, l'Église accomplit sa tâche comme il se doit, parce que elle n'a pas de point d'ancrage que celui de l'Évangile. Il faut présenter comme la solution à la question sociale. Et nous ne voulons pas nous arroger, nous, les monopoles de la recherche de solutions, jusqu'à nous laisser, accepter que les autres, que nous soyons nous aussi responsables. Je crois que la première tâche de l'Église, et c'est la tâche essentielle, c'est que l'Église n'est pas là pour uniquement porter la bonne nouvelle, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, à travers cette déclaration, elle a prononcé une parole risquée, une parole qui surprend, une parole qui secoue, et elle ne peut secouer que la conscience des personnes. Il me semble que la responsabilité, elle est d'accord de tous les Congolais, parce que de part et d'autre, peut-être on pourrait avoir l'une ou l'autre responsabilité, mais je crois que nous sommes un État dirigé, lorsque nous avons... Là, chacun fait son travail comme il doit le faire. Il me semble que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de la cité, il y a quelqu'un qui doit remettre de l'ordre. Il me semble que nos élus que nous avons bien votés, qui attendent encore de solliciter des voix, et il me semble que nous tous, nous devons nous engager, mais l'Église a vu le mal et a combattu le mal et a donné le nom du mal qui s'est fait, parce que ce n'est pas que nous avons fait un cri. Le titre de la lettre, je crois, il est important. Notre cri pour le respect. Quand vous êtes devant une personne qui crie, vous ne pouvez pas ne pas répercuter son cri vers celui qui doit l'entendre, qui peut l'entendre et qui devrait l'entendre.
Alors, on a suivi M. Atundu parler des complicités au sein de la population de Béni. Est-ce que l'Église sensibilise les jeunes à ne pas se faire enrôler dans ces groupes armés qui pilulent dans cette partie du pays?
Et il me semble que dès déjà l'arrivée de la délégation épiscopale à Butembo, il y a eu une grande célébration eucharistique où l'Église a voulu, disons, manifester sa proximité vis-à-vis de ces peuples qui souffrent, Et le prédicateur du jour a bel et bien dit, nous n'avons aucune arme, nous avons l'arme de la prière, nous avons l'arme des conseils. Et nous, lorsqu'on s'adresse à nos fidèles, on adresse le message à la conscience de chacun, qui, par chacun, dans la bonne volonté, la bonne foi, qu'il a à pouvoir écouter la force de l'Évangile et ce que l'Évangile dit à son cœur, de pouvoir commencer un cheminement de conversion. Il me semble que c'est là la tâche de l'Église. L'Église, il ne s'agit pas d'un dirigisme spirituel. Nous voulons proposer l'Évangile comme la solution à la question sociale. Et il me semble que il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait. On n'a pas proposé des solutions partisanes. Nous avons vu le mal, les évêques ont touché le mal du doigt et ils ne pouvaient pas s'éteindre devant la grande misère dans laquelle vivait la population.
Merci, Abbé Jean-Marie Kitumaini. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Kasserka Kivu Areni. Les évêques ont totalement raison, car ok, les gorgères n'ont été jamais présentés au peuple. Et le gouvernement avait dit que les ADF étaient déjà neutralisés et aucune localité qui était jadis occupée par les ADF n'a jamais été occupée par la population. Et pas d'évolution car la population continue à fuir au lieu de retourner chez elle.
Réaction.
Je comprends la réaction de l'auteur, de l'auditeur, mais j'y répète, c'est une guerre où l'ennemi se fond dans la population. Et donc, l'armée, les forces armées nationales, et la MONUSCO d'ailleurs, sont embarrassées à trier la bonne l'ivraie et la bonne herbe, si je puis ainsi m'exprimer. Et donc, la situation n'est pas facile. Lorsqu'on dénonce, voilà ce qui arrive généralement. En général, les gens qui mettent beaucoup de bonne volonté et même s'engagent beaucoup, perdent. Ici, l'émotion des atrocités, suite aux atrocités, est telle qu'on ne se rend même pas compte des sacrifices énormes que font nos forces armées. Des efforts. Disons de préoccupation chaque fois exprimée par le président de la République en disant que le sud, le Kivu, le nord, le sud, c'est notre priorité, c'est une affaire nationale, c'est toute la nation qui est préoccupée par la situation au Kivu, c'est toute la nation qui est engagée. Et donc, si je comprends l'émotion, mais il ne faut pas qu'il soit obnubilé au point de ne pas remarquer les efforts et la persévérance du gouvernement dans l'effort, qui porte certes des résultats minimes, mais des résultats quand même.
Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé avoir neutralisé, arrêté des EDF, mais on n'a jamais présenté un seul EDF à la télévision ou à la population. Et les localités jadis occupées par les EDF, comme il le dit dans sa réaction, la population n'est jamais rentrée s'installer dans ces localités.
Vous savez, ces mouvements rebelles, c'est comme des protozoaires. Vous supprimez 10, il en reste 1, celui-là se comporte comme un nouveau groupe. Et donc c'est très difficile.
Et ceux qui sont arrêtés, ils disparaissent ou...
Non, ils disparaissent pas.
Pourquoi on les présente
beaucoup,
pas?
Beaucoup sont morts au combat. Beaucoup, mais ça, c'est une position stratégique des autorités sur le terrain. Nous ne faisons pas une guerre spectacle. Ce n'est pas une guerre spectacle, c'est la vie de nos populations. Je vous ai dit qu'ils sont impliqués dans la population. Alors, si aujourd'hui, on sort tous les gens qu'on a attrapés dans la population et que quelqu'un dans la population remarque que tel, c'est l'ami de tel dans la population, vous voyez, ça va créer un mélimolo, un désordre indescriptible dans la population. L'essentiel ici, c'est de savoir que le gouvernement prend ses responsabilités, que nos forces armées ne reculent pas devant leurs responsabilités au risque de leur propre vie, et que c'est une situation difficile qui prend du temps et qui demande aussi, je le répète, l'implication de la société, l'implication de pasteurs, parce que si il y a une déperdition d'une âme, c'est plus la responsabilité du pasteur que de l'État.
Merci André Atundu, professeur Bob Kabambaye aussi. Cette réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa, on me dit.
Je suis ingénieur Augustin, je vous appelle à partir de la ville province de Kinshasa. Les évêques de Maniema Nord qui vous citent, qui ont totalement raison, pour la simple raison que plusieurs signes démontrent que le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux les problèmes de l'insécurité à l'est du pays. Comment peut-on comprendre que lors de la mort d'une dizaine de journalistes de Charlie Hebdo en France, le gouvernement français a mobilisé le monde entier pour l'avènement et qu'on est blessé, plus de 6 millions de personnes sont mortes, mais à la capitale, les gens continuent à danser, à travailler, si rien ne se passe au pays. Comment peut-on comprendre que certains officiers sont dénoncés être en connivence avec les assaillants et rien n'est fait pour les chasser de l'armée? Comment peut-on expliquer qu'après le passage du président de la République, commandant des armées et de plusieurs ministres, dont celui de la Défense et de l'Intérieur, la situation s'empire davantage? Est-ce qu'il y a complicité?
Professeur Bob Kabamba.
Merci. Question très pertinente de la part de l'auditeur. Là, il pointe du doigt quand même toute une série de problématiques qui sont connues du fait que même s'il y a des progrès dans la professionnalisation des forces de sécurité de la RDC, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail qui doit encore être fait pour pouvoir arriver à sécuriser de manière claire et sans ambiguïté l'ensemble des citoyens du Congo. Mais je voudrais quand même juste répondre pour que l'auditeur comprenne bien pourquoi la différence de traitement qu'il y a entre des fois les massacres qui se passent à l'est du Congo et des massacres qui se passent dans d'autres lieux, c'est tout simplement ce qu'on appelle la théorie du seuil. Le seuil, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau on peut arriver à supporter le nombre de morts qui puisse arriver à supporter le nombre de morts par la communauté internationale. C'est-à-dire que lorsque l'on tue 10 journalistes français, les 10 journalistes français valent plus que les dizaines de milliers, voire les millions de personnes qui sont décédées en RDC. Malheureusement, c'est la pure vérité, c'est mathématique. Il faudrait qu'il y ait, peut-être 10 millions ou 12 millions de Congolais qui puissent décéder pour qu'on puisse arriver à avoir peut-être une mobilisation au niveau international. C'est-à-dire, malheureusement, c'était ça le mal qu'il y a dans cette situation, c'est que les morts ne se valent pas. Pourquoi les morts ne se valent pas? Tout simplement parce que la pression et bien aussi la qualité des morts ne sont pas les mêmes. Il faut avouer que les morts congolaises ne valent pas les morts françaises ou même d'autres. C'est la pure réalité et c'est aussi le fait que les médias, qui jouent un rôle assez important pour pouvoir vulgariser, alerter la communauté internationale sur ces différents massacres, est assez silencieux sur ces différents événements. C'est là aussi, alors il revient, c'est ça aussi que je souligne quand je parle du fait que l'Église catholique, en faisant cette déclaration de manière claire, essaye justement de pouvoir mobiliser l'opinion publique, de mobiliser les médias, pour que les médias prennent conscience et qu'on puisse alerter la communauté internationale, pour que la communauté internationale puisse intervenir. C'est ça la différence de ce qu'il y a entre les traitements des différents événements que le Congo connaît malheureusement. C'est la même chose que l'on a connu par exemple en 1994 avec le massacre le génocide rwandais. Au moment où le génocide rwandais était en train de se perpétrer, en Belgique par exemple, on était en train de s'émouvoir non pas sur les morts des Rwandais, mais on était en train de se mouvoir sur les 10 casques bleus belges qui avaient été tués lors de ces événements. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la Belgique a focalisé toute son attention toute son opinion publique sur les 10 casques bleus belges qui ont été tués au Rwanda et pas sur le million de personnes qui allaient être tuées, comme on le sait, lors de ce génocide.
Merci, professeur Kabamba, monsieur l'abbé Jean-Marie Kitumaini. On va bientôt conclure parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, vous demandez parmi les exhortations pour que faire pour trouver la solution. Vous demandez au chef de l'État de se mettre face à ses responsabilités régaliennes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement?
Bon, il n'appartient pas à quelqu'un de pouvoir appeler au chef de l'État ou comment il doit remplir ses responsabilités, parce qu'il me semble que lorsqu'il a été il a pris ses grandes responsabilités de chef de l'État, de président de la République, ce n'est pas nous qui lui apprenons ce qu'il doit faire, parce que certainement que pour y arriver, il sait ce qu'il doit faire. On puisse faire le bilan d'une action qui, dans le sens de la pacification de tous les pays, pour que les élections prochaines se passent en bonne et due forme. Nous n'avons pas de leçons à lui donner, mais je pense que chacun, dans le sens du travail qu'il a à faire, il sait dans sa propre conscience que ce qu'il a à faire, il le fait dans le sens où il satisfait les attentes de la population qui attendent certainement quelque chose du travail, du genre du travail qu'il accomplit pour la nation. La responsabilité régalienne, ce n'est pas un cours d'économie politique à donner, mais il me semble que chacun sait ce qu'il doit faire et il me semble que c'est important qu'il il s'implique. Comme il a commencé, on n'a pas sous-estimé son action, parce que les évêques, on parle des interventions musclées qui ont eu lieu à son temps. Mais pourquoi une situation comme celle-là doit perdurer si pas seulement lui, mais tout le monde, nous sommes conscients qu'il y a un mal, il y a l'insécurité, et nous devons devoir nous mettre devant nos propres responsabilités.
Merci, monsieur l'abbé Jean-Marie Kitumaini. Monsieur Atundu, votre conclusion, le chef de l'État doit pacifier tout le pays pour l'organisation prochaine des élections à tous les niveaux et pour tous les citoyens du pays. C'est une recommandation des évêques.
La première pour remplir cette recommandation, c'est de faire confiance aux institutions de la République, en premier lieu au chef de l'État qui est le garant de la nation. Enfin, je voudrais terminer en paraphrasant le général de Gaulle dans des circonstances tout aussi tragiques, qu'il a dit, les morts et les victimes, nos victimes que nous pleurons, n'ont pas besoin de nos larmes et de nos sanglots, mais d'un nouvel élan moral et de plus de solidarité agissante dans la synergie des initiatives et la cohésion nationale.
Merci André Alatoudou. Professeur Bob Kabamba, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, moi je dirais plutôt que l'Église catholique doit continuer dans sa mission, dans sa tâche de pouvoir porter les revendications des choses qui ne vont pas, mais seulement, il ne faut pas seulement porter ces revendications, il est indispensable qu'elles se mettent aussi à l'action, qu'elles se mettent à l'action au service de la population aussi, et aussi dans sa mission, et qu'elles quittent les soutanes, qu'elles prennent aussi la houe, et qu'elles aillent aussi au champ pour pouvoir contribuer à mettre fin à toutes ces violences que l'on remarque dans cette partie de la RDC.
Merci, professeur Bob Kabamba. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Alain Hirung, Berry Franklin, Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Paul Badianiama qui était à la prise de son. Au micro Kéline Coutier, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.